réplique Trump 2024 avec Laure Mandeville et Dominique Moisy. Après la prise d'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021, par ses partisans persuadés qu'on leur avait volé l'élection présidentielle, Donald Trump a quitté la Maison-Blanche presque en catimini. Dans 6 mois, on n'entendra plus parler de lui. Loin du pouvoir, il ne sera plus rien, assurait alors le correspondant à Paris du New York Times, Adam Nociter. Cette tranquille prophétie journalistique a été cruellement démentie. Nous sommes en 2024, Donald Trump est à nouveau quelque chose. Redevenu incontournable, il sera, selon toute vraisemblance, le candidat républicain face à Joe Biden et peut-être, malgré son imprévisibilité, sa mégalomanie et ses casseroles judiciaires, retrouvera-t-il dans quelques mois le bureau ovale. Cette résurrection est une énigme. Pour tenter de la résoudre, j'ai invité la journaliste Laure Mandeville, auteure entre autres d'un essai intitulé « Qui est vraiment Donald Trump ?» et Dominique Moisy, membre fondateur de l'Institut français des relations internationales, qui publie « Le triomphe des émotions, la géopolitique entre peur, colère et espoir ». Et je réitère la question que vous posiez en 2016, Laure Mandeville, faut-il avoir peur de Donald Trump ?
Bonjour Alain Finkielkraut et merci de m'inviter dans cette émission. Je crois que cette question que vous posez, évidemment, tout le monde la pose à travers le monde. Il y a au moins 50% des Américains qui pensent que oui, il faut avoir peur de Donald Trump. Et l'adversaire, en fait, de Donald Trump, qui n'est autre que Joe Biden, a construit le cœur de sa campagne sur l'idée qu'il faut en avoir besoin, car le retour de Donald Trump aux affaires serait en réalité une catastrophe pour la démocratie, mettrait fin à la démocratie américaine. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Personnellement, je me pose la question en permanence de quelles seraient les conséquences d'un retour de Donald Trump et s'il faut avoir, jusqu'à quel point il faut avoir peur de lui. Mais bien sûr qu'il faut avoir peur de Donald Trump au sens où cet homme est porteur d'une imprévisibilité politique totale. Il va revenir dans un contexte de revanche après, comme vous l'avez dit, avoir été jeté à bas de l'Olympe et avoir quitté la Maison-Blanche en catimini de manière honteuse, même pas raccompagné, sans la passation de pouvoir normale, après avoir accusé le président élu de ne pas avoir été élu. Il était encore à l'automne 2022 complètement retranché, désemparé à Mar-a-Lago, voyant toutes sortes de gens, mais ne sachant plus quoi faire de lui-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand même, la principale raison pour laquelle je pense qu'il faut avoir peur de Donald Trump, c'est évidemment ce que j'appellerais son grand péché, qui a été, au-delà de tous les problèmes et toutes les critiques qu'on peut lui faire, le 6 janvier 2021. Puisque le 6 janvier 2021, il ouvre la porte, il incite finalement à une forme d'insurrection chaotique, de mouvement de rage qui va pousser certains de ses soutiens les plus jusque-boutistes à aller remettre en cause le résultat de l'élection, parce que lui dit que cette élection a été truquée, que Joe Biden n'a pas été élu, que c'est lui qui a gagné. Et donc, il ouvre la porte à une remise en cause de ce qui est le cœur du processus démocratique, c'est-à-dire la passation de pouvoir et la question de l'acceptation du résultat des élections. Et ça, évidemment, ça ouvre une période de danger, parce que ça montre que cet homme peut passer d'autres lignes rouges s'il revient au pouvoir. Il y a encore deux autres raisons, je pense, pour lesquelles il faut craindre. Il y en a en fait beaucoup qu'il faut craindre l'arrivée de Donald Trump. La première, c'est que nous pouvons être persuadés que son retour au pouvoir déclencherait une véritable hystérie sur la scène politique américaine, comme sa précédente élection avait provoqué une hystérie chez ses adversaires et donc une sorte d'empoignade hystérique permanente pendant les 4 années qui vont suivre. C'est pas sûr qu'on irait vers un renversement de la République du tout, mais il pourrait y avoir un processus chaotique qui serait délétère et très néfaste. Et enfin, il faut bien sûr mentionner le fait que cette élection se produira dans un contexte géopolitique extrêmement dangereux et menaçant, avec cette agression russe qui est en cours en Ukraine et en Europe, et donc un facteur dans lequel Trump, cet homme totalement transactionnel, cet homme qui menace d'abandonner l'OTAN, cet homme qui veut faire la paix à tout prix avec Poutine. Tout cela, évidemment, sont des facteurs extrêmement menaçants. Donc, on est dans un cadre menaçant de peur. Mais juste pour terminer, en réalité, on va avoir une bataille entre la peur des uns contre la colère des autres, parce que la réalité, c'est qu'il y a près de 50% des Américains qui sont plus en colère qu'ils n'ont peur.
Dominique Moisy.
Alors, je crois qu'il faut avoir peur de Donald Trump pour deux raisons majeures. La première, c'est que Trump lui-même a changé depuis 2016. La seconde, c'est que le monde, Laure Mandeville l'a mentionné, a profondément changé. Et la rencontre entre ce monde beaucoup plus dangereux et cet homme beaucoup plus dangereux me paraît explosive. Pourquoi Trump a-t-il changé ? Le Trump de 2016 arrive au pouvoir presque par hasard. Il n'y croit pas lui-même. Il ne s'est en rien préparé à l'exercice des fonctions suprêmes. Il va improviser. Alors, il est imprévisible, dit-on, mais à l'époque, il n'est absolument pas idéologue. Il est pragmatique. Le Trump de 2024 est animé par un esprit de revanche, sinon de vengeance, et il se comporte comme un chef mafieux disant ouvertement « Je vais punir mes ennemis, tous ceux qui m'ont trahi au sein du Parti républicain, tous ceux qui m'ont dénoncé injustement à tous les niveaux de la société américaine, et je vais récompenser mes amis, ceux qui m'ont été fidèles. » Et il va même jusqu'à dire « Je serai dictateur » pendant un jour, disant clairement, vous allez voir, je vais répondre à votre colère, vous qui me soutenez, tous ces intellectuels qui vous méprisent, je vais les punir. C'est vous qui pourrez retrouver votre dignité grâce à moi.
Bien. Alors, après ces deux réquisitoires, je vais me faire, mais pour le plaisir de la discussion, l'avocat du diable. Ce n'est pas nécessairement ce que je pense, que les auditeurs en soient avertis. Vous connaissez sans doute les mémoires de Jared Kushner, Breaking History. Jared Kushner, c'est le gendre de Donald Trump, A White House Memoir. Il met au crédit de Donald Trump, son premier mandat, les accords d'Abraham, conclus entre un certain nombre de pays arabes et Israël. Il met aussi à son crédit le vaccin, la production des vaccins à grande échelle, c'est-à-dire que la production a été lancée avant que les vaccins soient approuvés, c'est-à-dire ils ont été déjà prêts à être distribués. Ça, c'est sous Trump. On peut ajouter l'Iran. À la fin du mandat de Donald Trump, l'Iran était à genoux. Or, aujourd'hui, le régime des mollahs est renforcé, car certaines sanctions ont été levées, les prix du pétrole ont flambé, et dans un premier temps, en effet, Joe Biden disait « l'ennemi, c'est l'Arabie Saoudite, ce n'est pas l'Iran ». Donc, tout ça aussi peut être mis au crédit de Trump, et la colère. La colère, elle vient de quoi ? De la désindustrialisation provoquée par la mondialisation et de l'immigration illégale. Ceux qui sont contre l'immigration illégale sont traités de racistes, ce qui n'avance pas vraiment le débat. Et cette colère, elle dure encore. Voilà pourquoi Trump incarne quelque chose. Je cherchais le noyau rationnel dans le soutien à Trump. Mais je vous laisse la parole pour me dire que j'avais complètement tort. Laure Mandeville.
Oui, alors moi, je suis en total accord avec vous sur ce que vous venez de dire, Alain Finkielkraut. Il me semble que ce qu'il est très important de comprendre quand on parle de Trump et qu'on s'interroge à la fois sur son incroyable émergence sur la scène politique en 2016 que sa résurrection actuelle, c'est que Trump reste un symptôme, c'est-à-dire le symptôme d'une crise absolument profonde de confiance, une crise presque civilisationnelle qui sépare aujourd'hui une partie du peuple américain des élites américaines. C'est-à-dire qu'on a, le sentiment qu'il s'est passé dans les 40 dernières années une double sécession, une première sécession qui a été celle des élites qui ont finalement quitté le peuple pour se mouvoir et se penser dans le monde global, où les notions de frontières n'ont plus d'importance, aussi bien sur le plan de la protection des industries, du commerce, que sur le plan, effectivement, de la protection des emplois, donc l'immigration, et que, la question culturelle, il y a depuis 40 ans une véritable crise aussi morale et culturelle, en fait, où il y a toute une partie de l'Amérique, cette partie largement populaire, des classes moyennes, qui ne se retrouvent pas dans l'évolution de la société, dans le monde post-moderne, post-industriel, qui est une alliance, en fait, de l'oligarchie technologique qui s'est constituée, qui domine aujourd'hui avec la finance, l'économie, et de la classe intellectuelle qui, elle, est largement à gauche et est partie dans une espèce de fuite en avant identitariste qui, en fait, je dirais, atteint au bon sens de ces classes moyennes, en partie paupérisées et en tout cas très en colère, qui ne se reconnaissent absolument pas dans ce monde. Et je voudrais juste citer une phrase que j'ai citée dans l'autre livre que j'ai consacré notamment à Trump, mais à la révolte en Occident, les révoltés d'Occident, dans lequel c'était cet intellectuel américain qui a écrit Virilité, Harvey Mansfield, qui disait que au fond un des éléments on était en échange avec lui et il me disait un des problèmes c'est qu'il y a environ 50% de la population américaine qu'on a complètement disqualifié sur le plan culturel et qui réclame à nouveau leur place à la table de la politique et donc il faut que l'autre partie accepte qu'il y ait 50% de la population ne pense pas comme eux et donc je pense que c'est très très important dans ce que vous interrogez. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu ce mouvement qui est un bras d'honneur, véritable bras d'honneur du pays profond contre l'élite, une crise de confiance profonde du fait qu'on ne les écoute pas. Et je crois qu'aujourd'hui, ils sont à nouveau en colère parce que ce qui s'est passé, c'est que quand Trump a été élu, il n'y a pas eu de véritable prise en compte sur le plan du fond de ce que signifiait son élection. C'est-à-dire qu'en fait, les élites, notamment démocrates, n'ont pas fait le bilan de pourquoi Trump a été élu. Et du coup, ils sont revenus vers lui pour réattaquer cette élite, mais évidemment dans un contexte dangereux, puisqu'il y a un contexte de polarisation aujourd'hui de la société des deux côtés, et de véritables clashs entre d'un côté cette espèce de dynamique woke devenue folle, et de l'autre la radicalisation des bastions de soutien trumpiste.
Uniquement ici.
Alors, plusieurs choses. La première, c'est que si on veut comprendre la montée de la colère aux États-Unis, je crois qu'il convient de mettre en parallèle la chute des tours de Manhattan en 2001 et la chute de la tour symbolique de Lehman Brothers en 2008. Il y a d'un côté la peur de l'insécurité physique, de l'autre la peur de l'insécurité économique. La chute des tours de Manhattan renforce la radicalisation de l'extrême droite américaine. Nous sommes menacés, il faut nous défendre. Et pour nous défendre, peut-être, nous couper de ce monde si dangereux. Non seulement on ne le sauve pas, mais il nous agresse. Coupons-nous de lui. 2008, la chute de la tour de Lehman Brothers, c'est le sentiment profondément d'injustice qui domine les classes moyennes américaines. Au fond, il y a eu des jeux incroyablement dangereux et les coupables n'ont pas été punis. Car Barack Obama a choisi de sauver les banques. Et ce sont nous, les petits, qui payons le prix. Moi, j'ai un souvenir très vif. Je suis professeur à Harvard à ce moment-là. Je vois dans les rues des hommes blancs d'une quarantaine d'années qui demandent la charité. Ils ont perdu leur travail, ils ont perdu, dans beaucoup de cas, leur maison. Il n'y a pas de système de protection sociale. Tout ça leur paraît trop injuste. Alors, au-delà de ces deux causes majeures, il y a quand même un phénomène à la Binda, la trahison des clercs. C'est-à-dire que le Parti républicain joue un rôle considérable dans l'évolution négative de la vie politique américaine. Vous avez, au cours des dernières années, un phénomène, je dirais, de lâcheté collective. Ils abandonnent les valeurs du Parti républicain. Ils trahissent le parti d'Abraham Lincoln, se rallient à un clown dangereux, ne percevant même pas ce qu'il peut y avoir d'anormal dans ce personnage, tout simplement parce qu'ils veulent conserver leur siège. Et c'est encore le cas aujourd'hui.
N'y a-t-il pas aussi une trahison des clercs de l'autre côté ? Alfred Sauvy disait « La démocratie ne consiste pas à savoir s'entendre, mais à savoir se diviser. » Les Américains ne savent plus se diviser. À cause de cette polarisation dont vous parliez, leur Mandeville, il y a le populisme effréné d'un côté, auquel en effet a cédé le Parti des Républicains, mais de l'autre côté, un wokisme déchaîné. Et ces gens non seulement ne se parlent plus, mais ils s'insultent, ils s'excommunient et se renforcent l'un l'autre. Dans votre livre, leur Mandeville, vous citez l'intellectuel républicain anti-Trumpiste d'ailleurs, David Frum, je crois, c'est son nom, Frum. Mm-hmm. La chose peut-être la plus difficile à faire dans la politique contemporaine américaine est d'imaginer comment le monde est perçu par l'autre bord. Et c'est ça qu'on constate, c'est quand même la crise réelle de la démocratie américaine, leur Mandeville.
Absolument, et c'est pour revenir exactement, je crois que vous avez raison de parler d'une double trahison. C'est vrai, je suis complètement d'accord avec l'idée que la crise de 2008 a joué absolument un rôle majeur. Moi, j'étais aux États-Unis, c'était le début de ma correspondance à Washington. Et cette idée que Main Street, c'est-à-dire la rue, les gens, les petites gens, les gens normaux ont été sacrifiés au profit de Wall Street est absolument claire. Et c'est vrai que 2 ans plus tard, vous avez le phénomène des Tea Party, où vous avez toute cette montée en puissance, justement, de cette Amérique des provinces qui dit « Rendez-nous notre pays, les règles ne sont pas justes, etc. » Alors que Obama était arrivé sur l'idée de la justice. Je ne suis pas complètement sûre, en revanche, que le Trumpisme soit sorti du 11 septembre avec une radicalisation de l'extrême droite, etc. J'y vois pour preuve que cette Amérique qui a voté pour Trump en 2016, elle avait voté pour Obama en 2008. C'est en fait la classe ouvrière des démocrates qui, en fait, a migré, comme elle l'avait fait d'ailleurs sous Reagan, elle a migré du Parti démocrate vers le Parti républicain parce qu'elle ne se reconnaît plus dans le parti de ce qu'elle appelait avant John Fitzgerald Kennedy. Moi, c'est ce que m'ont dit plein de Trumpistes anciennement démocrates, que on se reconnaît plus dans ce parti, qui nous parle de fluidité du genre, de identité forcenée, de victime et d'oppresseur en permanence. Pour eux, ça veut rien dire. En plus, ils sont pénalisés par l'économie, disons, verte, en fait l'orientation décidément, justement, de l'économie verte qui nuit à la classe ouvrière, en tout cas dans un premier temps, il faut bien le reconnaître. Et je lisais des chiffres comme quoi, dans le Michigan, Trump, aujourd'hui, pouvait menacer Biden parce qu'il y a 1% des cols bleus qui veulent de l'économie verte, par exemple. Et ils se reconnaissent pas dans les guerres culturelles, etc. Et je pense que, pour revenir à ce que vous avez dit, c'est-à-dire, oui, le parti républicain a abandonné un certain nombre de valeurs, mais en même temps, on ne peut pas sanctifier les valeurs républicaines d'avant Trump comme quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y a eu énormément d'hypocrisie et aussi, je dirais, d'appât du gain dans ces valeurs. C'est-à-dire que c'était le libre-échange à tout prix, comme vache sacrée. Et Trump, de ce point de vue-là, a été attirant, dans un bon sens du terme, parce qu'il dit... On peut pas faire du libre-échange à tout craint, parce que ça aide les élites, mais pas nos industries, pas nos ouvriers, etc. Il faut protéger notre monde de la globalisation. Je serai le protecteur de ce monde. Et donc, de ce point de vue, il est attractif. Et ce que je constate, qui est intéressant, c'est que malgré tous les dangers qu'il porte avec lui, notamment le fait que c'est un homme complètement chaotique. Là, j'ai publié une interview de John Bolton dans le Figaro que vous avez dû voir, où il explique en fait que cet homme a des intuitions qui sont parfois tout à fait justes sur la Chine, sur les accords d'Abraham, vous l'avez mentionné, sa position de force vis-à-vis de l'Iran, quand il n'hésite pas à aller sanctionner Qassem Soleimani qui va être liquidé. Et tout le monde pense ici, parmi les experts du Moyen-Orient, que ça va provoquer une crise majeure, mais ça ne l'a provoque pas, en fait. Il ne se passe rien à ce moment-là. Et donc, il a parfois un instinct du rapport de force qui est bon.
Dominique Moisy.
Plusieurs choses. Le Parti démocrate, qui perd ses électeurs progressivement, dès 2004, au moment de la réélection de George W. Bush, vous avez des villes comme Détroit, qui sont traditionnellement démocrates, qui vont voter républicaines parce que, au plan des valeurs sociétales, elles n'acceptent pas le mariage entre homosexuels. Donc il y a quelque chose qui déjà existe en 2004, bien avant l'apparition de Donald Trump. Mais je crois quand même, il me paraît important de voir qu'au sein du Parti républicain, il y a une petite minorité qui peut faire la différence en novembre 2004, qui quand même n'arrive pas à digérer le 6 janvier 2021, la marche sur le Capitole, qui considère que vraiment ce personnage n'est pas acceptable, que ce serait se renier soi-même que de voter pour lui. Et vous avez, lors des primaires, remportées haut la main par Donald Trump au sein du Parti républicain, quand même des petits signaux, des avertissements. Le Vermont ne sait rien du tout, mais il va choisir Nikki Haley. Il y a des États, même comme la Floride, où tous les sondages d'opinion donnent Trump extraordinairement vainqueur. Il gagne, mais avec une majorité beaucoup plus faible. Et là, on commence à percevoir déjà quelque chose qui peut se révéler décisif dans les élections. Les femmes vont voter contre lui à partir de la question de l'avortement. Il l'a emporté, si j'ose dire, grâce à la majorité de la Cour suprême dans l'affaire Wade versus Wade, mais c'est une victoire à la Pyrrhus pour lui, car on sent la montée de la mobilisation des femmes contre Donald Trump. Mon corps m'appartient, cela joue. Et je pense que les valeurs sociétales qui, au début, ont pu bénéficier, effectivement, à Donald Trump, peuvent paradoxalement se retourner contre lui de manière décisive en 2024.
Je pense que vous avez tout à fait raison que, effectivement, curieusement, on va avoir peut-être une élection, pour utiliser le vocabulaire woke, une élection genrée. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez tout à fait raison que cette question de l'avortement va être très importante et qu'elle va mobiliser les femmes. Et d'ailleurs, c'est tout à fait clair que Biden mise à fond sur la question de l'avortement. C'est un des sujets absolument majeurs avec la question de la démocratie en péril. C'est le sujet, plus le fait que l'économie va bien. De l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le Parti républicain qui devient le parti des hommes et des hommes mal à l'aise, des hommes mécontents. Ce qui est intéressant, c'est que le Parti républicain devient le parti qui se dessine presque multiracial des classes populaires. Et c'est ça la véritable métamorphose que l'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, le Parti républicain, sous l'influence de Trump, devient le parti de la base du pays et de ces classes populaires, notamment des hommes, alors des hommes blancs, c'était déjà le cas en 2016. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2020, Trump n'avait absolument pas l'avantage chez les hommes blancs jeunes. Il s'était fait écraser par Biden. Ils sont aujourd'hui au coude à coude dans cette catégorie, ce qui est quand même extrêmement intéressant. Et par ailleurs, ce qui est, à mon avis, l'élément le plus intéressant de ce qui se passe, c'est que malgré tous ces défauts, vous avez une proportion très importante des minorités qui n'adhèrent absolument plus, qui rejettent même vigoureusement le catéchisme identitaire de la gauche. Et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui non pas 35% des latinos qui disent vouloir voter pour Trump, mais 39%, ce qui est une montée significative. Il y aurait, là j'attends de voir, je reste parce que c'était déjà le cas en 2020, mais il y aurait 22% des hommes noirs qui voudraient aujourd'hui voter pour lui. Et ça c'est très intéressant, c'est qu'il y a un mouvement au sein des minorités de rejet de cette radicalité de la gauche sur la question identitaire. J'ai fait pas mal d'interviews en fait d'intellectuels, notamment afro-américains, qui en ont assez de ce catéchisme, qui en fait ne les met plus à l'intérieur du modèle républicain méritocratique de l'égalité devant la loi, qui est le cœur du système politique américain. Et j'ai eu une discussion avec un personnage tout à fait intéressant, qui est l'actuel maire de Dallas, qui est un personnage très intéressant parce qu'il est afro-américain, il était démocrate, et il a été élu à la mairie de Dallas avec 70% des voix pour un premier mandat. Et il vient de remporter son deuxième mandat en tant que républicain, parce qu'il est passé côté républicain, avec 90% des suffrages, un score presque poutinien, je dirais, parce que il a justement rejeté cette question identitaire qu'il juge extrêmement dangereuse et qui, selon lui, bloque en fait l'évolution positive justement des Afro-Américains en disant que leur problème est beaucoup moins un problème aujourd'hui de racisme, d'être soumis à un problème de racisme, qu'un problème socio-économique ou culturel.
Non, je crois qu'il y a un double paradoxe.
Oui, moi aussi.
Il y a un double paradoxe dans cette histoire. C'est que Donald Trump est clairement le candidat des classes populaires. Mais il est aussi le candidat des super riches, parce que ils se disent, avec lui, on va payer beaucoup moins d'impôts. Il est extraordinaire qu'il continue d'attirer les classes populaires alors qu'il est le candidat des super riches. Et du côté démocrate, Joe Biden n'a rien à voir avec les woke. Au contraire, il est l'incarnation d'un parti démocrate traditionnel, des valeurs internationalistes. Morale.
Il est très contesté.
Il est le
du sein des démocrates.
Tout à fait.
On le voit aujourd'hui dans les primaires.
Tout à fait.
Notamment sur la question du Moyen-Orient.
Tout à fait. Alors je crois que au jour d'aujourd'hui, on peut penser que l'élection se fera à partir de deux abandons. Lequel sera le plus important? Est-ce que Biden va perdre son aile gauche parce que sa position est jugé trop favorable à Israël, ou est-ce que Trump va perdre les plus modérés, les plus centristes des républicains, parce que sa personnalité est jugée comme trop extrême? Il se fera un équilibre entre ces deux pertes. Elle va se faire dans quelques états clés. Il est impossible aujourd'hui de prévoir dans quelle direction on va aller. Mais on peut faire un pronostic. Et considérer que, en réalité, même si Biden l'emporte, rien n'est réglé en Amérique, car sa victoire sera très serrée et l'hyperpolarisation de la société américaine va continuer. Il faudrait une victoire éclatante de Biden pour que le Trumpisme et Trump soient vraiment définitivement remis en question. Ce qui n'est pas, et de loin, le scénario le plus probable.
Oui.
Alors, tout ce que vous dites, moi je suis en accord absolu avec vous sur ce que vous dites, sur cette espèce de concurrence qu'il va y avoir sur ceux qui vont lâcher Biden et ceux qui peuvent lâcher Trump. Je dirais que vous avez complètement raison de dire que Biden, évidemment, n'est pas un woke du tout. C'est un démocrate traditionnel, à l'ancienne. Mais le problème, c'est qu'il, Trump, est suspendu comme président au-dessus de ces deux volcans que sont la révolte trumpiste et la révolution woke. Il est obligé, d'une certaine manière, alors qu'il ne le voudrait pas, il essaie de chevaucher cette révolution woke. Il ne s'y oppose pas.
Parce que
sa base s'est radicalisée. Et donc, Biden incarne une génération qui est en train de quitter la scène politique. Et pourquoi, finalement, Biden a été reconduit alors qu'il est dans un état, sur le plan physique et peut-être aussi dans ses capacités cognitives, qui suscitent des immenses inquiétudes, en fait, dans son propre camp? Il a été reconduit parce que on n'a pas pu faire émerger quelqu'un qui soit un successeur, justement, qui soit dans sa lignée ou qui puisse incarner une sorte de synthèse entre ces courants. Et donc, c'est les gens comme Pelosi qui sont au fond des gens de bon sens et comme lui. Ce n'est plus eux qui incarnent le visage de demain du Parti démocrate, comme on l'a vu sur l'affaire de Gaza, d'Israël, où il y a une radicalisation qui est extrêmement importante. C'est pour ça que pour moi, effectivement, vous avez raison de dire, Dominique Moisy, que sa réélection ne réglerait rien. Mon espoir, qui a été déçu, c'est que je pense que la seule chose qui pourrait assainir, je dirais, le climat politique et la crise politique américaine, ce serait un post-Trumpisme. C'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen d'absorber cette révolte trumpiste. Et il y a un livre qui est sorti de Thibaut Muser que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui s'appelle Post-Populisme, et qui prévoit que la tendance après le populisme, ça sera un post-populisme, ça sera donc des leaders populistes, comme par exemple Giorgia Meloni, qui vont venir de la révolte, mais qui entrent, qui est absorbent en fait et répondent aux demandes de cette révolte, mais jouent le jeu d'hommes d'État, de femmes d'État, et s'inscrivent en fait dans un jeu classique de respect des institutions et du respect du jeu démocratique. Or, Trump, comme ça, on n'a pas pu absorber, on n'a pas pu avoir de candidats trumpistes comme DeSantis ou Nikki Haley qui prennent la main, c'est Trump qui revient, et donc on est toujours, ce ne va pas être résolu évidemment de si c'est lui qui arrive, et on va avoir une prolongement, une perpétuation de cette hystérie dans un moment, on l'a dit, extrêmement dangereux, encore une fois,
géopolitique. On parlera de ce moment, mais vous dites, Laure Mandeville, vous parlez de la capacité de Trump à parler sans respecter la novlangue du politiquement correct, mais faut constater qu'il ne s'affranchit pas seulement de la bien-pensance, il ne respecte pas la bien-séance.
C'est vrai.
Absence totale de manière. Et la question que je me pose, pourquoi cette démolition de la bien-séance remporte-t-elle un tel succès? C'est ça qui est vraiment caractéristique de Trump en 2016, pendant la campagne, mais aussi aujourd'hui. Aucune règle, aucune limite. Cet homme qui veut remettre des limites, c'est-à-dire les frontières, etc., dans la politique qui n'en a plus, il est sans limite, et notamment dans sa façon de s'exprimer. Alors, les Républicains sont-ils capables aujourd'hui de sortir de ce populisme? Et pourquoi cette vulgarité, cette brutalité est-elle encore dans certains secteurs populaires?
Alors, je crois que le Parti Républicain accepte cette transgression parce qu'elle marche, parce qu'elle fonctionne encore.
Oui,
du jour où cette transgression apparaîtrait négative au niveau des résultats, vous retrouveriez au contraire un Parti Républicain hyper traditionnel. Et je crois que c'est ça qui me choque le plus en réalité. C'est que on a perdu le sens de ce qui était normal et de ce qui ne l'était pas. On a perdu le sens de ce qui était acceptable et de ce qui ne l'est pas. Et vous avez des élites républicaines qui sont prêtes à violer, en réalité, tous leurs principes d'éducation, toutes leurs valeurs traditionnelles, pour rester au pouvoir, pour continuer à remporter les élections. Voilà, c'est
oui,
ça
alors,
qui
sûr.
Me paraît en réalité profondément choquant. Et je ferais quand même une distinction entre le trumpisme et le wokisme. Je pense que le trumpisme, à terme, est peut-être plus dangereux que le wokisme. Parce que le wokisme est un moment qui ne me semble pas fait pour durer. Alors c'est peut-être une illusion profonde. Je le vois à travers mai 68, les gauchistes de mai 68. Ont-ils eu une influence délétère aussi considérable qu'on le dit aujourd'hui? Je n'en suis pas sûr.
Non.
Donc c'est une comparaison volontairement provocatrice que je fais pour lancer le débat, et je suis sûr que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec
moi. Moi, je dirais, avant de laisser la parole à Laure Mandeville, que l'idéologie porteuse du gauchisme, c'était quand même l'idéologie communiste. Le communisme s'est effondré, l'illusion totalitaire s'est dissipée. Comment l'illusion woke se dissipera-t-elle? Il n'y a pas de goulag. Donc, d'une part, il y a aussi un changement démographique en Europe qui, en quelque sorte, l'accompagne, la soutient. Il n'en reste pas moins que la brutalité, la vulgarité de Trump sont incroyables et son succès aussi me paraît étrange parce que il défend l'Occident.
Oui.
Un Occident qui risque justement d'être laminé par la globalisation qui devait être le dernier avatar de la domination occidentale. Éviscération industrielle. Mais quelle incarnation, vraiment, vous citez Laure Mandeville, le journaliste Tony Schwartz qui a écrit pour Donald Trump « The art of the deal
oui. »,
l'art de la négociation. Il parle d'un niveau de superficialité et d'ignorance stupéfiant. Il n'a sans doute jamais un seul livre. Il n'est intéressé que par lui-même. Il n'a aucune capacité de concentration. Et Schwartz se repent d'avoir mis du rouge à lèvres sur un cochon. Donc, mais c'est ça, c'est l'Occident incarnée par celui qui est la négation de toute la civilisation occidentale.
Oui, vous avez raison, c'est un paradoxe. C'est vrai que dans le livre, j'insistais sur le fait qu'il dit vouloir remettre des limites, par exemple, aux frontières, des limites contre ceux qui veulent nous envahir, nous détruire, etc. Mais effectivement, c'est un homme sans limites. Je pense que c'est un énorme problème. Et c'est un homme sans principe, ce qui est encore plus important, me semble-t-il. C'est que là, on est face à ce promoteur immobilier qui a un côté... il utilise tout ce qu'il a à sa disposition pour mener ses combats. Il est prêt à faire un pacte avec le diable, avec ce fameux avocat Roy Cohn, vous savez, quand il combattait contre ses adversaires dans le monde de l'immobilier, pour gagner ses contrats, pour influencer les politiques, etc. Il utilisait tous les moyens. Donc c'est un monde vraiment de requins, un monde sans principe et sans limite, effectivement.
Et Roy Cohn, il faut le rappeler, c'était déjà le conseiller de McCarthy.
De McCarthy, c'était vraiment exactement. C'est un personnage qui lui avait appris.
Un personnage redoutable.
Qu'il était redoutable. On peut mentir, c'est pas grave si on est traîné devant la justice. L'important, c'est de tenir, de multiplier les procès. Il lui a appris toutes sortes de manières de faire pour combattre, toujours combattre, pour jamais lâcher quand on est attaqué, utiliser le fait d'être attaqué contre ceux qui vous attaquent, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi le reflet de notre époque, disons-le. C'est-à-dire d'une époque de grande vulgarité, d'une espèce de société du spectacle où le spectacle a remplacé la politique. Il est juste une sorte de manifestation aiguë de ce mal qui a détérioré et désagrégé la politique.
En France, ce mal existe. Mais bien sûr, dans la société du spectacle.
On le voit tout à fait.
C'est Cyril Hanouna, d'une certaine manière.
Avec Cyril Hanouna et les politiques qui défilent chez lui, dont on a vu des exemples tout récents ces derniers jours. Vous parliez de limites. J'ai lu un papier fascinant de Peggy Noonan il y a quelque temps, qui est cette remarquable, l'ancienne conseillère qui écrivait les discours de Reagan et qui est une républicaine, évidemment, mais à l'ancienne, et qui appelait son parti, dans cette ambiance chaotique et ultra dangereuse, à l'auto-limitation. Mmh. Ce qui rappelle, en fait, ce que disait Solzhenitsyn sur ce qui s'était passé à la Révolution, où aucune des parties n'avait voulu s'auto-limiter et qu'on était allé vers cette espèce de radicalisation qui avait mené à la catastrophe. Quand vous disiez, mais pourquoi les gens l'acceptent? Je pense qu'ils l'acceptent parce qu'effectivement, la crise de confiance dans les élites est totale aujourd'hui. Donc, ils sont prêts à partir. Il y a une désinstitutionnalisation totale du processus politique aujourd'hui. Ils ne font plus confiance aux médias, ils ne font plus confiance aux tribunaux. Et donc, ils ont décidé de faire confiance à cet homme d'une manière presque religieuse. Et donc, c'est une sorte de pacte scellé. Et c'est ça toute la difficulté, en fait, de cette politique qui n'est plus une politique des compétences et de la conversation adversariale, mais d'un choc entre deux légitimités, entre guillemets, religieuses, celle du wokisme, qui pour moi est en réalité très très dangereuse. Je suis en désaccord avec Dominique Moisy sur ce plan-là, parce que le wokisme a en réalité submergé les institutions. Quand vous voyez, par exemple, que dans les médias américains, aujourd'hui, par exemple, au New York Times, on demande aux journalistes de se conformer dans l'écriture de leurs papiers à une espèce d'équilibre où ils doivent citer autant de sources des minorités que des sources blanches, etc., je pense qu'il y a quand même un véritable problème profond qu'il va bien falloir résoudre.
Oui. Alors, je reviens à Trump. Au fond, il y a un culte de Trump, vous l'avez dit. Mais c'est une personnalité qui, en réalité, est parfaitement contradictoire. Parce que d'un côté, il est transactionnel. Beaucoup d'analystes disent, au fond, il deviendra rationnel le jour où son argent est mis en cause. Le jour où on le persuade que une politique de sanctions extrême à l'égard de la Chine peut lui coûter cher à lui, Donald Trump, que ce n'est pas son intérêt, et puisqu'il ne s'intéresse qu'à lui et qu'en réalité à ses affaires, ça peut changer sa vision des choses. Mais c'est ce paradoxe de cet homme qui est divinisé par certains et qui lui-même reste en réalité profondément transactionnel dans son regard sur le monde.
Alors, transactionnel, ça peut vouloir dire aussi pragmatique, oui. Dominique Moisy. Il serait pragmatique, il regarde les choses comme elles sont. Alors là, je vais m'aventurer, mais tout le monde s'inquiète de l'attitude de Donald Trump si il est réélu, notamment concernant l'Ukraine. Vous oui. avez parlé des problèmes géopolitiques. Mais comme il est pragmatique, il constate, par exemple, que l'Ukraine ne peut pas gagner, que si ça continue, la Russie prendra toujours plus de territoire, même si c'est pas spectaculaire, et donc l'Ukraine sera amputée d'une grande partie de sa nation. Et il pense que ça suffit, et peut-être réussira-t-il quelque chose dans la mesure où il est transactionnel, dans la mesure où il est pragmatique. C'est la question oui. que l'on peut
mais,
se poser,
Mick Moisy. Alors, c'est là où j'aborde les questions géopolitiques oui. Que je traite essentiellement dans mon livre. Je reviens sur le bilan de Donald Trump 2016-2020. Vous avez cité, Alain Finkielkraut, les accords d'Abraham. Oui. Les accords d'Abraham sont un plus avec un moins gigantesque. La question palestinienne n'a absolument pas été traitée. Et on voit qu'au bout du compte, elle va exploser le 7 octobre 2023. Sur la question de l'Ukraine, vous nous dites, Trump réalise que l'Ukraine ne peut pas l'emporter. Mais il faut, me semble-t-il, définir, redéfinir le sens de ce que signifierait la victoire pour l'Ukraine. Perdre 20% de son territoire, mais devenir membre de l'OTAN et entrer dans l'Union européenne, est-ce que c'est une défaite réelle pour l'Ukraine? Est-ce que David n'a pas montré à Goliath qu'il lui résistait quand même et qu'il choisissait son camp, celui de la démocratie, que l'Ukraine restait majoritairement à l'Ouest? Ça, c'est, je crois, la politique que mène Biden. Est-ce que ce sera la politique et la conclusion à laquelle arrivera Donald Trump? C'est une autre histoire.
Il est vraiment permis d'en douter. Voilà. Votre démonstration était brillante. Laure Mandeville.
Oui, alors, sur cette question de l'Ukraine, l'Ukraine ne peut pas l'emporter. Qu'est-ce que ça veut dire, effectivement? Est-ce qu'elle ne peut pas l'emporter? Est-ce qu'elle ne peut pas l'emporter parce qu'on ne lui donne pas les moyens de l'emporter? Moi, je dois dire que je suis plus sévère que vous, même si Biden, dans un premier temps, a réagi de manière très positive en mobilisant autour de lui les alliés. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un manque de clarté absolue dans cette administration où ils veulent emmener les Ukrainiens et nous tous.
Mais attendez, Laure Mandeville, Joe Biden voulait débloquer une aide de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine. Les Républicains l'empêchent au Congrès, sous la haute direction de Donald Trump. Donc là, Biden est ligoté, en réalité, par Trump.
Oui, c'est quand même... je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que ça, vraiment, je ne nie pas, absolument pas, que Biden a beaucoup fait et voulait renouveler ce capital d'aide, en fait, à l'Ukraine. Mais le problème est que, malgré tout, les Américains n'ont pas complètement défini, cette administration n'a pas complètement défini si elle voulait se donner les moyens de ramener l'Ukraine jusqu'aux frontières de 1991. Peut-être estime-t-elle qu'elle ne peut pas ramener l'Ukraine jusqu'aux frontières de 1991. Mais dans ce cas-là, elle n'a pas non plus montré de clarté sur le fait qu'elle allait faire rentrer, parce que ça c'est la suggestion que vous faisiez de faire rentrer, ou vous faisiez vous, Dominique Moisy, de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN après avoir accepté qu'elle perde 20% de son territoire. Mais alors ça, pour le coup, ça serait la seule condition à laquelle l'abandon de ces 20% de territoire ne serait pas une véritable catastrophe. Parce que pour le coup, connaissant un peu la question russe, je dois vous dire que le plan de Poutine aujourd'hui, il mise sur la faiblesse et la démission de l'Occident. Il a un plan pharaonique qui est de gagner cette guerre, d'écraser l'Ukraine, de défaire la nation ukrainienne et l'État ukrainien complètement, et de continuer sur sa lancée pour discréditer complètement l'OTAN, soit en poussant son avantage, soit en Moldavie, soit dans les Pays-Baltes, je n'en sais rien. On est face à une volonté extrêmement importante, et donc ce que je dirais, c'est que Biden, pour l'instant, n'est pas clair là-dessus. Trump, c'est encore pire, puisque effectivement,
c'est pire, oui.
On voit un parti républicain qui a été incapable de se mobiliser pour effectivement voter cette aide, qu'on a bloqué, et ce sont les Trumpistes, je suis complètement d'accord, qui ont bloqué tout ça. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, en Europe centrale et orientale, on veut croire que la logique de l'affrontement structurel entre les États-Unis et la Russie mènera Trump finalement à une solution qui ne sera pas catastrophique. Moi, ce que j'entends, par exemple, c'est-à-dire à, effectivement, quand même, au bout d'un moment, prendre conscience du danger qu'est l'Ukraine. Mais, ce qu'il faut dire, c'est que Trump d'après ce que j'entends, moi, par exemple, venant de Heritage Foundation, qui est le think tank, en fait, qui lui donne de l'information, l'idée pour lui serait de proposer un deal à Poutine, en lui laissant une partie du territoire, et en échange de garanties de sécurité. Mais le problème, est-ce qu'il est prêt à faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN ?
Ça, c'est pas sûr.
Donc, on est franchement dans une situation qui est extrêmement dangereuse et floue.
Dominique Moisy.
Plutôt que de dénoncer l'absence de clarté de la position américaine sous Biden, je dénoncerais la clarté aveuglante de la position de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il est prêt à sacrifier l'Ukraine pour montrer aux Américains que Biden a échoué en Amérique. Il devient l'allié objectif de la Russie de Poutine. Il est en réalité le joker dans le jeu de Poutine. Il se dit, les Ukrainiens ont résisté mieux peut-être que je ne le pensais. Les Européens se sont beaucoup moins divisés que je l'espérais. Mais Dieu merci, en novembre 2024, Donald Trump sera élu. Pour moi, le regard que Poutine porte sur la politique intérieure américaine doit dépasser toutes les hésitations, toutes les divisions que nous pouvons avoir. Puisqu'il est pour Trump, il est naturel que nous soyons contre lui.
Alors, une dernière question, Dominique Moisy. Diriez-vous de Biden que c'est un bon, voire un grand président? Ça n'a pas tout à fait bien commencé avec le retrait piteux de l'Afghanistan, que Poutine a interprété comme un signal de faiblesse. C'est quand même sous Biden qu'il a déclaré sa guerre. Sous Trump, rien de tel ne s'est produit. Mais ensuite, il a pris conscience, Biden, du danger de la République des Mollahs. Et donc, quelles conclusions peut-on tirer de ce qui est peut-être son premier mandat?
Alors, je crois que quel que soit le résultat des élections en novembre, Biden restera dans l'histoire comme un président au bilan très globalement positif. Je dirais, en économie, c'est clair, même si les Américains, c'est intéressant, ils sont à plus de 60% à considérer que leur économie va beaucoup mieux. Mais ils sont seulement 37% à imputer ce résultat à l'exercice de Biden. Au Moyen-Orient, là encore, je trouve que Biden a raison fondamentalement. Il fait preuve d'une empathie immédiate à l'égard d'Israël, se rendant immédiatement en Israël après le 7 octobre. Et aujourd'hui, il me semble que dans ses sanctions, ses limites, il empêche Israël de se suicider. Il lui dit, mais pour l'intérêt même d'Israël, je dois mettre des limites à votre action.
Donc c'est un bon président.
C'est globalement un très bon président.
Alors, l'émission se termine, Laure Mandeville. Vous avez le dernier mot, mais...
Oui,
très ramassé.
Oui, ben, je dirais que Biden est un homme qui a eu de très bons instincts, mais qui a un défaut d'exécution. Et malgré tout, l'Amérique projette une image de grande faiblesse aujourd'hui.
Pourquoi dites-vous cela?
Ben, parce que, par exemple, au Moyen-Orient, l'Amérique, pour l'instant, ne règle absolument pas ce problème, hésite dans sa stratégie, a été bombardée, ses bases ont été bombardées, attaquées par les Houthis, je ne sais combien de fois, dans les derniers mois. En Ukraine, malgré tout, la question n'est absolument pas réglée et aujourd'hui Poutine est plutôt à l'offensive. Donc il y a un vrai point d'interrogation et nous ne pouvons pas savoir si le bilan de Biden sera vu de manière positive parce que ça dépendra de ce qui va se passer après. En même temps, il est tout à fait possible que nous regrettions amèrement Joe Biden si Trump est élu et si on se retrouve dans un véritable chaos ou une phase isolationniste. Donc, je trouve que ce bilan ne peut pas encore être totalement tiré.
Alors,
sur Biden.
Si vous étiez américaine, vous voteriez Trump ou Biden?
Ah non, je voterais Biden.
Et vous? Biden.
Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'hésitation.
Il n'y a pas d'hésitation à voir. Bon, bah, très bien. J'espère que...
Mais vous ne nous avez pas demandé qui sera le prochain président des États-Unis.
Ben, c'est la même chose, non?
Moi, je pense que c'est impossible à savoir.
Vous nous dites, pour qui votez-vous? Vous ne nous avez pas dit quel sera le résultat.
Ah non. Moi, non seulement je ne fais pas de pronostic à cette antenne, mais en plus, je ne suis absolument pas devin. Je suis, comme vous, inquiet de la situation aux États-Unis, de la division de la société américaine, et effectivement, je suivrai ces élections avec passion et avec angoisse. En tout cas, vous nous avez beaucoup éclairés l'un et l'autre. Alors, votre livre, L'Ormandeville, qui est vraiment Donald Trump, a été publié conjointement par Le Figaro et les éditions Équateur. Et vous avez cité un dernier livre.
Les révoltés d'Occident, qui est beaucoup plus récent, où je faisais tout un bilan du mandat de Trump et de la situation très préoccupante des États-Unis aujourd'hui.
Ça s'appelle
Les révoltés d'Occident. À l'Observatoire.
Les révoltés d'Occident aux éditions de l'Observatoire, qui est vraiment Donald Trump. Et Dominique Moisy, vous venez de faire paraître Le triomphe des émotions, la géopolitique entre peur, colère et espoir, chez Robert Laffont. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar et Lise Ripoche, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui, Yvan Turc. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Vivre avec la poésie ». Mon invité sera Sylvain Tesson. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.